au début de la semaine, alors que nous étions à table chez Jean et Claudine, j'ai vu par la fenêtre le haut d'un palmier. Et l'idée m'est venue de... Tiens, je parlais bien du palmier. Et puis, il se trouve que mardi, Jean et Claudine nous ont emmenés faire la visite du jardin des palmiers. C'était comme une confirmation que je devrais vous parler du palmier. Et puis, l'idée de ce psaume qui a été lu par Martine tout à l'heure, le psaume 92. Nous avons vu, d'ailleurs, pendant la semaine, nous avons eu l'occasion de dire que dans la Bible, l'arbre symbolise souvent l'homme. Nous avons cité le psaume 1er, qui dit que il est comme un arbre, juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et nous avons vu aussi que Nebuchadnezzar était donc symbolisé par un arbre aussi. Ce soir, j'aimerais me référer au texte qui a été lu tout à l'heure. Texte a été lu tout à l'heure par Martine. Dans ce cantique, David commence par louer l'Éternel. Il dit qu'il est beau de le faire. Il est beau de célébrer son nom. Je pense que le sabbat est toujours effectivement particulier où nous sommes invités ou appelés à célébrer l'Éternel. Il dit encore qu'il est beau de le faire à cause de sa bonté et de sa fidélité. Le sabbat étant le mémorial de la création, David exprime son bonheur face à l'œuvre créatrice de Dieu et dit que tes œuvres sont grandes. Que tes œuvres sont grandes. Il montre ensuite la différence entre l'homme qui ne reconnaît pas la bonté et la grandeur de Dieu, homme qu'il qualifie de stupide et insensé, et qu'il classe dans la catégorie des méchants, d'ennemis de Dieu. Différence donc entre ceux-là et ceux qui reconnaissent l'Éternel comme créateur et qui le louent. Si les méchants croissent comme l'herbe, dit-il, s'ils fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Tandis que les justes, eux, croissent comme le palmier et s'élèvent comme le cèdre du Liban. Et c'est de la caractéristique du juste que je me propose de considérer avec vous ce soir. Que comprenez-vous quand le psalmiste dit que les justes croissent comme le palmier? Qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un peut... Vous avez lu le texte? En général, quand on lit le texte, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire le psalmiste là? Ça veut dire quoi ça? Est-ce que vous croissez comme le palmier? Pardon? Une différence entre nous et le palmier? Pourtant, le psalmiste, il dit que les justes croissent comme le palmier. Alors, si le psalmiste le dit, c'est que le palmier a un enseignement, ou nous avons plutôt un enseignement à tirer du palmier. Et nous verrons ce soir que dire du palmier pour que nous puissions être considérés par Dieu comme justes. Pour comprendre ce que veut dire le psalmiste, il nous faut bien entendu considérer le palmier. On constate premièrement que les palmiers poussent partout. Ils poussent dans n'importe quel terrain. Et il en est de même du juste. On en trouve dans tous les milieux, scolaire, professionnel, universitaire, religieux, sportif, sociaux, culturels, administratifs, politiques, etc. Des justes, on en trouve dans tous les milieux. On constate deuxièmement que, quel que soit le milieu où il est, le palmier, il pousse droit. Alors, j'ai vu en passant des arbres dans un terrain très pentu, ici à La Réunion, il y avait aussi dans cette pente un palmier. La majorité des arbres qui étaient plantés, ils penchaient dans le sens de la pente. Alors que le palmier, lui, poussait droit. Poussait droit. Et j'ai compris que David nous dit qu'il en est de même du juste. Il n'est pas influencé par le milieu dans lequel il est. Même quand tous ceux qui sont autour de lui vivent d'une certaine manière, lui, le juste, doit pouvoir vivre autrement, et marcher droit. Chez les antédiluviens, il y a eu Noé. Concernant les antédiluviens, la parole de Dieu nous dit que, dans Genèse 6, verset 5, que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il dit au verset 11 que la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Au verset 12, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Quand je lis cela, je me dis que nous ne sommes pas loin de la période, l'époque des antédiluviens. Ou non ? Vous ne pensez pas que le mal est grand sur notre planète aujourd'hui ? Oui. Mais le texte dit aussi, au verset 6, au verset 9, que Noé était un homme juste et intègre dans son temps, que Noé marchait avec Dieu. Nous pouvons aussi citer Lot. Lot qui vivait dans la ville corrompue de Sodome. La Bible dit dans Genèse 13, verset 13, que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et dans le chapitre 18, au verset 20, Dieu dit à Abraham, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Dans sa deuxième épître, l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 2, versets 7 et 8, que si Dieu a délivré qui ? Le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, donc les hommes au milieu desquels ils vivaient, car ce juste habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ceux qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Nous pouvons citer aussi Joseph. Joseph qui refusa de coucher avec la femme de Potiphar, qui le harcelait pourtant tous les jours, dit le texte. Ce qui donne une petite idée de la corruption qui régnait en Égypte. Corruption à laquelle Joseph ne céda pas. Et nous avons de lui cette belle phrase au verset 9. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Et quoi qu'elle parlait tous les jours à Joseph pour l'inciter à coucher avec elle, Joseph, dit le texte, refusa de coucher avec elle, d'être auprès d'elle, d'être avec elle. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas différent de celui des antédiluviens, de celui non plus de l'époque de Babylone. Mais nous avons aussi l'exemple des compagnons de Daniel, que vous connaissez, qui refusèrent l'ordre du roi, qui étaient de se prosterner devant la statue qu'il avait faite. Le roi leur dit, est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Et il dit, mais si au son des instruments, vous ne vous prosternez pas, et si vous n'adorez pas la statue que j'ai faite, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une foule ardente. Nous avons peur, n'est-ce pas? Peur de désobéir ou peur de la foule? J'aime bien la réponse des jeunes Hébreux. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Tu vois, tout ce que tu peux dire là et rien, c'est pareil. On n'a même pas besoin de te répondre. Ça ne sert à rien d'argumenter, ça ne sert à rien de menacer, ça ne sert à rien. Voici notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Je ne sais pas, ou nous ne savons pas s'il le fera, mais de toute façon, il nous délivrera de ta main. Je ne sais pas, hein, nous ne savons pas ce qu'il fera. Puisqu'il dit, sinon, si jamais il ne devait pas le faire, si nous devions donc périr de la fournaise, sache de toute façon que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as faite. Fournaise ou pas fournaise, sache que de toute façon, nous n'adorerons pas tes dieux et nous ne prosternerons pas devant la statue d'or que tu as faite. Le juste ne vit pas en subissant l'influence du milieu dans lequel il vit. Le monde dans lequel nous sommes pousse au vol, pousse à l'adultère, pousse à la médisance, pousse au mensonge, pousse au faux témoignage. Ça, c'est le monde de lequel nous sommes. C'est la haine, c'est le chacun pour soi. C'est moi d'abord, toi, on verra. C'est moi d'abord. Ça, c'est le monde de lequel nous sommes. Le juste, vit au milieu de ce monde-là, dans ce monde-là. Mais il ne se laisse pas influencer par le milieu dans lequel il vit. Comme le palmier, les autres arbres penchent dans le sens de la pente, mais lui, il n'y a pas de problème, il monte droit. Il marche droit, le juste. Il marche droit, même dans les milieux les plus hostiles. Il demeure fidèle, même lorsque tout le monde autour de lui ne l'est pas. Il sait qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, quelle que soit l'opposition de la société.
Il faut être fidèle, mais ce n'est pas facile. Je disais qu'il faut être fidèle, mais ce n'est pas facile dans le monde où nous vivons. Aussi, frères et sœurs, puisque aujourd'hui c'est un jour où nous devons célébrer l'Éternel, je vous invite à chanter la première et la troisième strophe du cantique 403. Marchons, frères. Bon courage. De Jésus suivant les pas. Première et deuxième strophe.
Comment le juste peut-il vivre dans un monde aussi méchant, aussi mauvais, aussi éloigné de Dieu et demeurer et marcher droit? Comment est-ce possible? Quand nous regardons les palmiers, nous rendons compte qu'ils ont tous à leur sommet une tige pointée vers le ciel. Je ne sais pas si vous voyez la tige ici. Là. C'est une photo que j'ai prise au parc des palmiers. Au jardin des palmiers. C'est jardin des palmiers ? Parc des palmiers. Tous les palmiers, quand vous les regardez, ils ont une tige là, pointée vers le ciel. Comme le palmier, le juste doit avoir aussi ses pensées, ses affections, toujours orientées vers le ciel. Comme le palmier. Vous voyez que lorsque le palmiste dit que les justes croissent comme le palmier, il dit ça aussi. Il dit que le juste doit avoir aussi ses pensées et ses affections toujours orientées vers le ciel. Ne pas perdre de vue l'objectif. C'est d'ailleurs ce que de l'Éternel, que le palmier reçoit la nourriture qui lui permet de croître droit et de marcher la droiture. C'est de l'Éternel qu'il reçoit la nourriture, je dis. C'est en Dieu que le juste cherche aussi ce qui est nécessaire à son épanouissement et à sa prospérité. Dans son épître aux Colossiens, l'apôtre Paul déclare « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce qu'il faut faire ? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et lorsque nous avons parlé de la grâce, nous avons dit qu'il y a une vision que Dieu donne à tous ceux qui sont nés de nouveau, à tous ceux qui lui appartiennent, et que cette vision est celle de son prochain retour. Et je vous invite ce soir-là à ne jamais perdre de vue. Jamais perdre de vue cet objectif. C'est lorsque nous perdons de vue le prochain retour de Jésus que nous arrivons à penser comme les autres, à vivre comme les autres, à être influencés par ceux qui se trouvent autour de nous. C'est en Dieu que le juste cherche ce qui est nécessaire. Et si vous êtes ressuscité avec Christ, dit l'apôtre, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Celui qui choisit d'être en relation permanente avec Dieu par la pensée, par ses affections, est comme le palmier. Il marche droit. Il ne subit pas l'influence du milieu dans lequel il vit. Il reçoit de l'Éternel la nourriture qui lui permet de grandir et de marcher droit. Il cherche en Dieu ce qui est nécessaire à son épanouissement et à sa prospérité. Je vais appeler encore notre organiste.
Nous allons chercher en Jésus la sagesse. Nous allons aussi chercher en lui la sainteté. C'est pour cela que je vous invite à chanter le 336. Jésus-Christ est ma sagesse, première et troisième.
Dans le livre « Ma vie aujourd'hui », Ellen White écrit « Tant que nous garderons les yeux fixés sur celui qui est l'auteur de notre foi et qui l'amène à son accomplissement, nous serons en sécurité. » Attachons-nous à ce qui est céleste et non terrestre, par la foi. Élevons de plus en plus haut pour obtenir les grâces du Christ, en contemplant chaque jour ses qualités incomparables. Nous nous rapprocherons de plus en plus de son image glorieuse. Jésus disait que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais que tout disciple accompli devient comme son maître. Nous terminerons avec un autre enseignement du palmier. Quand nous regardons les arbres, nous constatons que généralement, ils s'élargissent à la base et que les racines s'étendent au sol. C'est un arbre de chez toi, là-haut. Tu reconnais ? Bien. Oui, les deux d'ailleurs, mais celui-là surtout, tu dois le reconnaître bien. Okay. C'est le 19e. Contrairement aux autres arbres, le palmier, lui, est comme posé au sol, posé sur le sol. Là, peut-être que l'image que nous avons ici ne rend pas. Mais voilà une image qui donne du tronc d'un arbre et celui d'un palmier. Vous voyez que l'arbre ici s'élargit à la base et que les racines s'étendent vers le sol. Or, que le palmier, lui, il est tout arrondi. On ne voit pas de racine. On a l'impression qu'il est posé sur le sol, comme une bouteille. Pardon ? Une bouteille ? Oui, comme une bouteille. Il est probable que le palmier a aussi là une leçon pour nous. On a l'impression que le palmier... qu'on pourrait le prendre et partir avec. On n'ose pas parce qu'on sait que c'est un arbre. Mais c'est comme une bouteille. On a l'impression qu'on pourrait le prendre et partir avec. Il en est de même du juste. Comme le palmier, il n'est pas confortablement installé sur la terre. Il est prêt à partir à n'importe quel moment avec son Seigneur s'il l'appelle. Où sont les justes dans ce monde pervers dans lequel nous sommes? Où est-ce que le Seigneur va trouver les justes? Puisqu'ils existent, ces justes. Où va-t-il les trouver? Où va-t-il trouver ceux qui marchent droit, de la droiture, sans se laisser influencer par ceux qui les entourent? Il y en a au tampon. Vous souriez? C'est la question qu'il nous pose ce soir. Hein. Quels sont ceux d'entre nous qui marchent droit, quoi? Et les justes sont là. Parce que c'est là que le Seigneur veut les trouver, pas ailleurs. Il ne veut pas les trouver au bord de la plage, il ne veut pas les trouver les boîtes de nuit, il ne veut pas les trouver là-bas. Il va les trouver dans son église. Pardon ? Oui. Dans une église qui veut les trouver. Où ils sont ? Ou alors, peut-être qu'il y en a qui donnent l'apparence du juste. À l'église, tout va bien. Quand on nous voit, on a le bon Dieu, comme on dit chez nous, le bon Dieu sans confession. On dit ça aussi ici ? Non. Et à la maison ? Pareil ? Vous me souriez ? Pareil ? Comment vous appelez ? Patrick ? Hein, Patrick ? À la maison, pareil ? Bon Dieu sans confession ? Non, mais je pense que le texte biblique est là pour ça aussi. pour que nous puissions, nous, chacun, moi, André, Patrick, Jean, Elliot, chacun de nous, dire ben, où est-ce que je me situe par rapport à cela, quoi. Juste seulement le sabbat matin. Et attention, il ne faut pas que ça commence à 9h, hein, trop tôt. À 10h, oui, en 10h30, ça va. Pas 9h, non, trop tôt. Et surtout, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. 11h30, ou midi moins 20, c'est maximum. Où est-ce que Dieu va trouver les justes qui marchent droit comme le palmier, qui ne se laissent pas influencer par le milieu dans lequel ils vivent? Où est-ce qu'il va trouver des justes qui sont prêts à partir à n'importe quel moment s'il veut aller ce soir? Allez, on monte avec lui. On n'est pas attaché au sol, là. On part avec lui, comme le palmier. Où est-ce qu'il va les trouver? Je propose que nous chantions notre cantique. Le 406.
Notre souhait, c'est que tous nous puissions chanter les paroles du 406, première et quatrième strophe. Nous attendons le
bonheur ou... Parce que quand il reviendra, il y aura bonheur, mais il y aura aussi... Hein? Il y aura quoi? Hein, Patrick? Il y aura quoi? Ouais, grincement de dents. Terrible, hein? Il y a des textes comme ça qui me disent dans la parole de Dieu qui me font frémir. Quand le Seigneur viendra, il va faire une sorte de séparation, une partie à droite, une partie à gauche. Bonheur pour ceux qui sont à droite et quoi? Pour ceux qui sont à gauche. Et ce qui me fait le plus frémir, c'est de savoir que parmi ceux qui seront à gauche, il y aura ce que nous avons appelé pendant la semaine des chrétiens. Des chrétiens. Je vous ai dit pendant la semaine que je n'aime pas ce mot-là, mais bon, je l'utilise pour que nous le comprenions bien. Des chrétiens, même des chrétiens zélés, fervents, qui diront, mais... Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas été à l'église chaque sabbat? N'avons-nous pas rendu la dîme? Chrétien fervent, zélé, n'avons-nous pas fait du travail missionnaire pour toi? Et ce qui est plus terrible, c'est que le Seigneur leur dira quoi? Je ne vous ai jamais connu. Vous imaginez ça, vous? Est-ce que vous vous imaginez dans cette situation, devant le Seigneur qui vous dit, je ne vous ai jamais connu? Alors que pendant des années, vous avez été assis sur des bancs d'une église, chantant, priant, louant le Seigneur. Vous imaginez ça, vous? Ça me fait frémir, moi. Ça me fait frémir. Hein. Frères et sœurs, je pense que je vous aime. Je vous invite à garder les regards fixés sur Jésus. À ne pas vous laisser influencer par tout ce qui se passe autour de nous. Souvent, au niveau de la foi, de l'attachement même à l'Église, je dirais. C'est le dernier qui a parlé qui a raison. Non, c'est la parole de Dieu qui a raison. Marchons droit comme le palmier. Ne nous laissons pas influencer par qui que ce soit. Surtout par les actions mauvaises des hommes. Marchons droit. Et puis, soyons prêts comme le palmier pour partir avec le Seigneur. parce qu'il vient et vient bientôt.